Mon cerveau, Billy the Kick, à vélo. Nos cerveaux, ils sont à fond vélo, ils sont à fond sans voiture, ville sans voiture, les villes de demain, c'est ça, il faut que les villes bougent. Passons du vélo à la littérature. Avec moi, dans le studio, enfin dans la rue, dans Rouen, Élise et Robin, de la librairie Les Mondes Magiques. Bonjour.
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 Donc la librairie Les Mondes Magiques, vous êtes située au 98 rue Beauvoisine à Rouen, pas très loin d'ici.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc vous avez accepté de venir partager avec nous cet après-midi un peu spécial à l'occasion de ce Parking Day à Rouen. Et donc votre librairie, elle est pas comme les autres. Pourquoi ?
Parce que c'est aussi un lieu où on peut boire du café, notamment.
Très bien.
Voilà. Il y a un petit coin où on peut s'installer, on sert des boissons fraîches, on fait du livre d'occasion et du livre neuf. Et puis...
Puis il y a des activités pour les enfants, on fait des lectures, des contes, on fait des soirées de temps en temps autour de thèmes très divers, on propose des petites expos, enfin voilà, on essaye de faire un lieu qui vit un peu quoi.
D'accord. Alors depuis combien de temps êtes-vous ouvert à Rouen ? Parce que ça fait maintenant trois ans et demi.
Trois ans et demi. Ouais, c'est ça. Ça fera 4 ans en mars prochain. Ouais, ouais. 3 ans et demi.
D'accord. Alors 3 ans et demi d'une belle aventure.
Bah ouais, on est ravis.
Ouais, ravis. Vous avez une clientèle, des fidèles, des gens qui viennent à la fois acheter, peut-être aussi se poser. Voilà, on peut venir boire un café, lire, venir avec les enfants.
Oui, c'est ça. Il y a des familles du samedi matin, il y a des fidèles du café de l'après-midi, il y a des gens qui viennent pas du tout boire un café, qui fouillent les rayons. Il y a tout ça, ouais.
Alors, est-ce que justement vous évoquiez des événements que vous organisez ? Est-ce que en cette rentrée de septembre, vous avez déjà un programme ? Vous pouvez nous donner petit aperçu, quelques dates ou une date. Alors là, je suis sur votre site internet, mais ça bug, donc je ne sais pas.
Non, on l'a refait, normalement, il est très bon.
Oui, non, le site est très bien. Je pense que c'est plutôt mon ordinateur.
Bah, on n'a pas encore de programme là, pour cette année, mais les deux prochaines choses à venir. Mercredi 1er octobre à 16h15, on a une lecture jeunesse. C'est le thème des monstres. Mmh. Et puis le week-end prochain, on participe à un autre événement, Poésie dans la rue. C'est un festival de poésie et de danse. On sera là sur le festival pour venir écouter les lectures de poèmes et puis proposer les livres aussi à la vente.
Alors quoi de mieux que évidemment d'écouter de la lecture pour avoir envie ensuite à son tour d'aller ouvrir un livre et donc des lectures à travers ce festival. Mais c'est aussi ce que vous allez nous proposer cet après-midi. On aura deux temps où on écoutera Élise, je crois,
oui.
Voilà, qui a choisi, rien que pour vous, chers auditeurs, deux ouvrages ou un ouvrage, deux extraits. On découvrira ça tout à l'heure. Donc ça va être aussi un chouette moment à partager ensemble. Alors, est-ce que vous avez des livres jeunesse, est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence, les enfants qui viennent, donc qui sont amenés avec leurs parents, mais comment vous sentez la place du livre aujourd'hui dans la ville ? Est-ce que vous sentez que...
Pour les enfants ?
Ouais, pour les enfants notamment.
Bah, pour les enfants, c'est les parents qui les y amènent, donc les parents ont une appétence, pour le livre jeunesse surtout, parce que... Il y a des beaux livres en livre jeunesse. Les éditeurs font un très bon travail. Plein d'éditeurs font un très bon travail. Donc on a la chance d'avoir une offre très bonne. Et les enfants se rendent compte, je pense. Bien sûr, quand on fait des bons livres, ça plaît aux adultes qui vont les chercher, mais ça plaît aussi aux enfants après pour les manipuler, pour les regarder, parce qu'ils ont des cachettes secrètes, parce que ils ont des belles couleurs.
J'en essaye de valoriser ça à la librairie, de proposer des éditeurs qui sont pas forcément très très connus, mais qui font du bon boulot avec des graphismes intéressants. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses très très chouettes en jeunesse.
Et puis vous participez aussi, donc là vous parliez du festival de poésie, mais il y a eu cet été un rallye lecture, je ne sais plus exactement.
Ah oui, la route du livre.
Voilà, la route du livre. Et donc là aussi, parce que je posais la même question à Guidoline tout à l'heure, parce que ça me paraît important, est-ce qu'autour du livre, il y a les librairies, un espèce de collectif, un travail en commun pour la promotion ? Comment fonctionne un peu ce microcosme ?
Bah, jusque-là, ça n'existait pas beaucoup. Et puis c'est l'impulsion des libraires BD de Rouen. Funambule, Le Grand Nulle Part et puis la librairie qui est rue de l'école. Non, je me
Lumière d'eau.
Oui, mais il a pas changé de nom. Bon, enfin bon. Oui.
Voilà. Cet été, c'était encore Lumière d'eau.
Encore Lumière d'eau. Et donc ces trois-là, ils sont super dynamiques et ils ont eu cette idée vraiment chouette de proposer à plein de libraires de Rouen de faire cette route du livre. Du coup, c'était l'occasion pour les gens de découvrir autour d'un parcours plein de librairies rouennaises. Et dans chaque librairie, il y avait un auteur qui dédicaçait des livres. Donc, découvrir les auteurs locaux, repartir avec une BD dédicacée et découvrir les librairies, c'était vraiment une bonne initiative.
Et donc, route du livre 2015 ?
Oui.
Oui, oui, il y aura, oui, oui, c'est sûr. Ouais, on est en train sûrement qu'il y aura une rencontre avec les confrères au mois d'octobre, et puis il y en aura une, ouais.
Super. Ah ouais. Là, on est aussi en pleine période de rentrée littéraire. On peut le voir sur votre site internet. Vous faites aussi, vous évoquez des coups de cœur, alors qui sont pas forcément liés à l'actualité. C'est vraiment des choix qui se dégagent de l'actualité, parce que c'est vrai que quand on entend parler de la rentrée littéraire, c'est des centaines et des centaines de bouquins. Est-ce que dans cette rentrée, vous avez en tout cas repéré un livre que vous aimeriez que les auditeurs d'HDR découvre ou en dehors de cette rentrée littéraire, votre dernier coup de cœur, celui l'indispensable pour.
On est toujours un peu pris de court.
Les livres de la rentrée littéraire, on n'en a pas encore lu. Mm-hmm. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est vraiment pas réactif à cette actualité-là. On y vient petit à petit au fur et à mesure de l'année. On attend aussi les conseils de nos clients, mm-hmm. parce que les lecteurs ont beaucoup de choses à apprendre à leur libraire. Et sinon, on a lu plein de bons livres. C'est dur de choisir.
Alors celui qui revient en tête.
Pour pas dire ce que dont Élise va faire la lecture, l'année dernière, le livre qui nous a marqué, c'est un livre de Maurice Ponce, qui s'appelle Les Saisons.
C'est un auteur qui est encore vivant et qui habite en Normandie, au Moulin d'Andé.
Ah, super, au Moulin d'Andé, d'accord. Ouais.
Voilà, c'est local.
Ouais.
donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 60, donc on n'est pas dans la rentrée littéraire, mais c'est un livre qui est découvert et redécouvert au fur et à mesure des années par différents lecteurs, notamment grâce aux librairies et aux bibliothèques, parce que du coup, les magazines ne relaient pas forcément. Et voilà, Les Saisons de Maurice Ponce, c'est un texte très étonnant, à la fois dramatique et drôle.
C'est difficile d'en parler. Mmh. On est allé voir Maurice Ponce, du coup, parce qu'on a tellement été enthousiasmés par le texte qu'on s'est dit, s'il est encore vivant, il faut y aller. Ouais. C'est un monsieur très charmant, on a été ravis de le rencontrer. Sans raconter l'histoire, Les Saisons de Maurice Ponce, c'est un livre à lire.
D'accord, ouais. Très bien. Alors justement, vu que là vous avez évoqué un auteur normand, est-ce que vous avez une attention toute particulière à la production littéraire de la région, ou pas forcément? C'est
pas
les
forcément.
Hasards qui font qu'une rencontre, des choses comme ça.
Non, à vrai dire, pas du tout. Bien sûr, on est attentif aux parutions locales. On regarde le catalogue que l'Agence régionale du livre fait, notamment sur les parutions des éditeurs locaux. Mmh. Il y en a de très bons. On regarde ça, évidemment. Mais nous, nos choix littéraires sont pas spécialement...
Axé sur le local, ouais. Particulièrement, parce qu'il y a de la qualité aussi dans toutes les autres régions. Donc. Ouais.
Et la littérature plutôt française, enfin francophone, ou vous êtes ouvert sur toute littérature.
On est ouvert sur toutes les littératures.
Ouais. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, Élise et Robin, parce que vous êtes jeunes. On parle beaucoup de la crise du livre, que les gens ne lisent plus et qu'en plus le livre papier va disparaître parce qu'il sera mangé par le méchant e-book et compagnie. Donc en tout cas, vous êtes jeunes et il y a 4-5 ans, vous vous êtes dit tous les deux, on va ouvrir une librairie. Paris, sans doute, qui a pu paraître un peu fou à certains. Mais comment on arrive à avoir ce projet? Vous êtes, chacun de vous, plongé dans des livres depuis tout petit ou pas?
Moi non, pas depuis tout petit, mais depuis, disons, après le lycée. Et puis, au projet lui-même, oui, tout est décourageant. Alors, c'est la crise, il y a le e-book, il y a tout ça. Et on s'est dit, tant pis. Justement, voilà, ceux qui ne sont pas découragés, ils viendront. Et il y en a, donc c'est très bien. Et donc, du coup, on a bien fait, parce que ça a du sens de faire ça, visiblement. Le e-book, je suis pas sûr, moi, de l'avenir de ça. C'est très difficile, en fait. Hein. Tout le monde prophétise dans tous les sens. Nous, on aime bien le livre, donc pour l'instant, on fait vivre du livre à notre façon et on est content de ça.
Élise, alors toi aussi, ce parcours qui t'a amené à avoir envie de ce projet, de le faire vivre aujourd'hui.
Oui, moi, je lisais depuis toute petite. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est... on avait envie... Enfin,
c'est venu naturellement.
Voilà, ouais. Et quant au e-book, bah, en fait, il y a vraiment des éditeurs qui font un très travail d'édition. Et du coup, ça donne des livres qui sont des objets intéressants avec... justement des graphismes sympas, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça l'avenir du livre en fait, papier. C'est des livres qui soient pensés comme des objets vraiment d'un bout à l'autre, depuis la qualité du papier, la typo. Et pour ça, il y a de l'avenir, je pense.
Je voudrais qu'on évoque également le fait que n'importe qui peut venir avec des livres tirés de sa bibliothèque, je crois, et on peut vous les déposer, parce que tu disais, Robin, tout à l'heure, que vous vendez aussi des livres d'occasion. Comment ça fonctionne, ce système-là ?
Oui, on les rachète. On les rachète au 9e du prix neuf. Un livre qui coûtait 9 euros, on le rachète 1 euro, et nous, on revend au tiers.
Donc voilà, on le revend 3 euros.
Ouais, voilà. 3 euros. Voilà, ça paraît pas très cher pour les gens qui nous ramènent des livres, mais en même temps, les lieux comme le nôtre n'existeraient pas s'il y avait cette marge minimum, qui est en fait petite. Et donc, voilà, c'est notre règle, c'est comme ça qu'on fait. Les gens viennent avec des cartons, on leur dit ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, parce qu'on est obligé de faire des choix.
Ouais. Vu que vous les rachetez, forcément, vous faites les choix à l'entrée du livre.
Exactement. Hein. Mmh. Ouais. Oui, parce que c'est pas, disons, c'est pas la brocante, quoi. On n'est pas juste pour stocker des livres. On a fait des rayons sur. Il y a un classement, c'est classé par ordre alphabétique.
Et surtout, on essaye de choisir ce qu'on propose. Donc, on propose pas tout et n'importe quoi. Donc, on fait des choix. Voilà. D'accord.
Et puis des choix qui peuvent être parfois, comme tu le disais, Élise, éclairés par les gens qui viennent voir, qui vous proposent, qui vous parlent d'auteurs, d'auteurs de livres.
Bah oui, c'est très agréable quand on voit des gens arriver avec des cartons, parce que parfois ils sortent des merveilles, ou parfois on ne savait pas que c'était des merveilles, mais ils nous l'expliquent. Donc là, c'est la partie intéressante.
Et également, d'occasion, des livres pour enfants, on peut venir aussi.
Ah oui,
voilà.
Oui.
Oui, les livres pour enfants, oui, on nous en amène un petit peu moins.
Sûrement, ils sont plus abîmés.
Voilà,
c'est dur à revendre après. Mmh.
Oui, j'en vois quelques-uns chez moi qui ne pourraient pas revenir chez vous, par exemple. Alors, tout à l'heure, je disais que vous allez nous proposer des lectures. Et donc, Élise, tu as choisi deux ouvrages. Je crois. Ben voilà, pour Parking Day, on distribue même des petites gâteries aux enfants. Alors, la radio, c'est Radio HDR.
Ça, je connais déjà.
99.1. Ah, les librairies, les mondes magiques.
98 rue Beauvoisine. Voilà.
Alors, j'explique aux éditeurs, nous discutons avec une dame qui passe dans la rue. Donc voilà, vous n'entendez pas tout, mais merci à vous. Donc Élise, le temps est venu d'un premier moment de lecture. Alors je ne sais pas si tu veux nous parler de ce que tu as choisi, après ou avant, c'est vraiment
plutôt
comme
avant.
Tu le souhaites.
Plutôt, ouais, avant. Plutôt avant. Donc le premier texte que j'ai choisi, c'est un extrait d'un roman qui s'appelle Les Jardins statuaires. C'est un roman qui a été écrit par un écrivain contemporain, qui est né dans les années 40, mais le livre, il l'a écrit dans les années 70, il a été publié dans les années 80, et après, il est tombé dans l'oubli. Et puis, il y a 3-4 ans, il y a une maison d'édition qui s'appelait Attila à l'époque, maintenant qui s'appelle Le Tripode, qui l'a ressorti. Et du coup, on est content de présenter un livre des éditions du Tripode, parce que c'est justement une maison d'édition qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, fait un bon travail d'édition au niveau graphique. Donc c'est souvent des livres assez intrigants, assez beaux, qu'on a envie d'ouvrir et de garder dans sa bibliothèque. Voilà, donc une bonne maison d'édition, Le Tripode. Et alors, Les Jardins statuaires, c'est un livre assez particulier. C'est un narrateur qui arrive dans un pays inconnu, le pays des jardins statuaires. Il y a des routes, et le long de ces routes, des grandes murailles. Derrière les murailles, des domaines où habitent des jardiniers qui cultivent des statues. Alors, ils plantent les petits morceaux de pierre, ils les arrosent, ils les taillent et ils essayent d'accompagner la maturation des chefs-d'œuvre. Et donc, le narrateur va se promener dans ce pays, découvrir les coutumes des jardiniers. Alors, ça va soulever plein de questions, la place des femmes, des rumeurs bizarres, comme quoi il y aurait des rebelles qui veulent attaquer les jardins statuaires pour les détruire. Donc, c'est un roman qui laisse une grande place au mystère. Mais pas seulement, il y a aussi beaucoup matière à réflexion quand on voit les coutumes de ces jardiniers. Et puis l'écriture est très belle. Donc pour pas trop en dire, tout en faisant découvrir l'écriture, j'ai choisi de lire tout simplement les premiers paragraphes. D'accord. Voilà.
Nous t'écoutons.
Je vis de grands champs d'hiver couverts d'oiseaux morts. Leurs ailes raidies tracées à l'infini d'indéchiffrables sillons. Ce fut la nuit. J'étais entrée dans la province des jardins statuaires. Il n'y a pas de ville ici. Seulement des routes, larges et austères, bordées de hauts murs que surplombent encore des frondaisons noires. Chaque communauté vit repliée sur elle-même dans sa demeure au cœur du domaine. Ça et là, au hasard, semble-t-il, on aperçoit un toit sombre et pentu. De temps à autre, on passe devant une porte qui est comme un accident de la muraille et demeure toujours close. Les voyageurs sont rares. Il y a des routes, mais on n'y passe pas. Je ne parle pas des convoyeurs qui mènent leurs lourds chariots aux roues de bois plein. C'est une charge qui échoit aux jardiniers à tour de rôle. J'ai cru d'abord que le pays ne comptait guère que 3 ou 4 hôtels, vétustes, délabrés, dont la silhouette massive devait surgir sur quelques carrefours abandonnés. C'est dans l'un d'eux que je logeais, et c'est d'après celui-ci que je jugeais des autres. Je n'y trouvais aucune commodité. La toilette se faisait dans la cour, les lieux d'aisance n'étaient qu'un inqualifiable appentis. La chaire était pauvre, dans une salle vaste et sinistre. La chambre était mal commode, chichement éclairée, et la nuit, j'y entendais des rats dont les ongles griffaient les dalles. Et pourtant, j'y restais. C'est là que vint me prendre un matin celui que je désignerais désormais comme mon guide. Je prenais le petit déjeuner dans la salle basse. Il y avait là un homme, accoudé au marbre, qui longeait l'une des murailles. Il lampait à petits coups un verre de vin blanc. Je connaissais ce vin, il était de ceux qui agacent les dents et crispent les nerfs. Après quelques gorgées d'un tel breuvage, on se sent des zébrures couler à fleur de peau. Cet homme me regardait, puis il vint à moi. Sa silhouette, que je vis se profiler à contre-jour, était haute et sèche. Quand pour me regarder de tout près, il se fut appuyé à la table où je mangeais, je constatai qu'il avait des mains rudes, prises dans un réseau de fortes veines et les yeux d'une extrême pâleur. « Vous êtes de passage, monsieur ?» me demanda-t-il d'une voix lente et précautionneuse. Et je fus surpris de cette courtoisie qui ne s'assortissait guère à son allure que j'avais crue provocante. « Oui, je suis de passage, mais... » Et je fis un geste vague, ne sachant trop comment rendre compte de mon séjour. « Désirez-vous visiter, monsieur ? Je me ferai un plaisir de vous guider. » « Et que visite-t-on ? Le pays, monsieur, tout le pays. » À son tour, il levait le bras, étendait la main et semblait d'un même mouvement envelopper les enclos aux murailles hautaines, les arbres secrets et le labyrinthe des routes tournoyant parmi les parcelles. Son geste l'avait détourné de moi. Le bras retombé, il fixait en silence le rectangle d'indistincte et intense clarté par quoi la salle s'ouvrait sur le dehors. Il me fit face à nouveau. « Peut-être ignorez-vous, monsieur, que dans notre pays, on cultive les statues. »
Ah, donc la suite à découvrir, les jardins statuaires. Merci beaucoup, Élise, pour cette lecture. C'est vrai que moi, j'ai envie d'aller y faire un tour maintenant dans ces jardins. Une question me revenait avant de vous laisser, mais on se retrouvera, Élise, évidemment, je le disais tout à l'heure. Tenir une librairie à deux, est-ce que des fois vous avez des désaccords sur des livres? Vous lisez un livre et vous n'avez pas du tout le même sentiment, la perception, l'un ou l'autre veut le proposer aux personnes qui vont venir dans la boutique, et puis un autre, ah non, surtout pas, ou finalement vous avez une ligne éditoriale assez naturelle qui entre vous?
Ouais, c'est très rare qu'il y ait des désaccords. Vraiment, je crois pas. Hein.
Non, j'ai pas souvenir non plus de.
Il y a des choses qu'on aime plus ou moins l'un l'autre. En général, quand un livre nous plaît, on dit à l'autre lis-le, et quand on le dit avec comme ça, cet impératif, on le fait. Et souvent, on n'est pas déçu. Voilà. Donc après, il arrive qu'on en fasse une petite présentation qu'on met à la boutique, et du coup, comme ça, au fur et à mesure des mois, les gros coups de cœur. On en a fait un classeur qu'on peut consulter sur place ou
sur le site internet. Ouais.
Ah, c'est très bien, voilà. Ça.
Qui est un peu, donc c'est effectivement les livres qu'on a aimés ensemble. Ils n'y sont pas tous, bien sûr, parce que ça met du temps de présenter un livre. Mais non, en général, on est assez. C'est peut-être pour ça que ça. On a fait ça ensemble, je ne sais pas.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Robin.
Merci
beaucoup, Élise. Donc, la librairie Les Mondes Magiques, rue Beauvoisine, à Rouen, au numéro 98, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Je vais même donner votre numéro de téléphone, 02 35 71 11 90, le site internet librairie-lesmondesmagiques.over-blog.com. Oh pardon, j'ai donné la mauvaise adresse, bah voilà. Non, voilà, c'est lesmondesmagiques.wix.com/librairie. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est la deuxième boulette de l'après-midi et il n'est que 14h02, ça va être très bon tout l'après-midi. Allez, pour me remettre de mes bêtises, chers auditeurs, un peu de musique.
Nous interrompons cette diffusion pour vous présenter une émission très particulière.
Regardez ce que j'ai trouvé, le poste de radio de grand-père.
Ce qui est important, c'est ce petit déclic, cette petite étincelle, cette petite lumière qui doit briller en chacun.
Le sonar recommence à déconner.
Et bien souvent, on doit d'abord penser à la raviver, parce qu'hélas, on fait tout pour nous endormir, surtout au niveau des consciences, quoi.
Commandant, nous avons perdu le contact radio.
Donc baissez bien le son, et puis tout le monde sera content.
Les commandes ne répondent plus, ils ont piraté.
Alors éteignez tout, éteignez-moi tout le système.
Mais impossible.
C'est ça, une idée de la culture, une idée aussi de la liberté à travers tout. Là, bah, c'est un peu limité.
Radio HDR.
Ne pourrait-on pas tourner le bouton de cette radio infernale?
Eh bien, avec la radio en live, dans la rue, sous le soleil, à Rouen, c'est qu'il y a forcément des petits soucis techniques, mais sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, bah voilà, Nico va essayer de nous trouver une petite solution. Bah, c'est juste pour écouter de la musique, ça marche pas forcément bien, mais ça ira mieux tout à l'heure. Et puis, de toute façon, comme je vous le disais, on aura de la musique live, donc pas de soucis. Vous êtes avec nous jusqu'à 17h, c'est HDR, le mix des cultures, pour une émission spéciale Parking Day. Nous sommes au 36 rue Molière à Rouen, en partenariat et devant la boutique de l'association Guidoline. Alors, évidemment, vous pouvez venir nous écouter, nous voir, il se passe plein de choses. Vous pouvez profiter de massages avec Brigitte qui est là avec nous, du shiatsu assis, de la réflexologie palmaire. N'hésitez pas à venir découvrir, c'est très agréable et c'est très bien pour vous détendre peut-être après un samedi soir où vous allez faire la fête, c'est pas trop mal de venir se détendre, donc n'hésitez pas. Vous avez également un mur d'expression libre où vous pouvez faire des petits dessins à l'occasion de cette émission spéciale, donc n'hésitez pas, il y a des feutres qui sont à la disposition, il suffit voilà, de venir se poser, de faire un petit dessin. Là je vois également un homme en lunettes noires, c'est Guillaume Laurent qui nous fera de la musique en live tout à l'heure, mais il nous en parlera tout à l'heure. Il y aura tout au long de l'après-midi des chroniques, des interviews avec des associations de vélo, mais pas que. On parlera avec l'association Sabine, les Incroyables Comestibles, évidemment encore ce fameux reportage sur le vélo fait par Émilien, chroniqueur du Ton Libre. Enfin voilà, un programme très riche jusqu'à 17h, donc n'hésitez pas, 99.1, radiohdr.com si vous êtes plus loin, partout dans le monde, et puis avec nous, rue Molière à Rouen. Donc, pour continuer cet après-midi, je vous propose qu'est-ce que je vais faire ? Je suis un peu chamboulée dans mon programme. Est-ce que j'ai une chroniqueuse qui est là ? Voilà. Vous le savez, dans Ton Libre, on a des chroniqueurs, donc des chroniqueurs qui sont maintenant rodés, qu'on va entendre cet après-midi. Il y a Émilien avec son reportage. Et puis, il y a Marie, qui n'est pas chroniqueuse de l'émission, mais qui, je le sais, aime écrire, aime photographier, aime ouvrir, inventer des mondes nouveaux, aime réagir sur le monde qui l'entoure. Et je lui ai proposé de prendre le micro aujourd'hui pour une chronique donc qu'elle a écrite rien que pour vous, chers auditeurs. Marie, bonjour.
Bonjour Rebecca.
Alors tu vois, le soleil est avec nous. Alors il faut que je remercie d'ailleurs, hein, parce que j'avais demandé sur Twitter, les réseaux sociaux, que tout le monde danse pour le soleil.
Il fasse quelques opérations de chaman.
Voilà, et les gens ont joué le jeu et il fait beau aujourd'hui. Alors, Nous t'écoutons pour ta chronique sous le soleil rouennais.
Je ne connaissais pas le Parking Day et donc je suis allée un peu sur Internet et je me suis attachée aux 5-6 lignes qui marquent, qui expliquent ce que c'est-à-dire occuper l'espace public et comment on peut réfléchir ensemble à cette thématique. Et du coup, ça m'a inspiré quelques mots. Alors après, je n'ai pas vraiment l'habitude d'être en antenne et puis souvent, c'est plutôt des mots pour être lus sur un écran que dit, mais néanmoins, je me lance, ce qui permettra de régler les problèmes de musique.
Non, mais de toute façon, tu y serais passé un moment.
Oui,
ou
voilà,
autre,
c'est, hein. Vrai. C'est vrai. Alors, j'ai limite une passion pour le flânage dans la rue. C'est le nouveau mot du jour, le flânage. J'aime ça. Avancer à petits pas, appareil photo en main, sentir les palpitations d'une ville, écouter les bruits, ceux qui sont au fond, sentir les odeurs, regarder le flux et le reflux des passants, me demander à quoi ils pensent, où ils vont et pourquoi. Regardez comment ils évoluent dans l'espace, comment ils se partagent les trottoirs, la manière dont ils ne partagent pas les bouts de vie qu'ils frôlent et qu'ils croisent. La façon dont ils expriment la générosité, l'égoïsme, observez comment ils cèdent ou se détestent, l'espace d'un instant. Regardez partout donc, le beau, le moche, le bordel, le sale, la désorganisation, le tout juste construit, les tentatives d'alignement pour faire comme si la ville était réellement belle. Je regarde l'ensemble et les détails. Ça me nourrit. Et je m'interroge sur ce qui est passé par la tête de ceux qui ont collé, dessiné ou écrit sur les murs. Et quel feu s'est allumé dans la tête de ceux qui ont refusé de partager. Ceux qui recollent sur les affiches, couche après couche. Ceux qui réécrivent sur les mots des premiers et qui retaguent sur les graffitis des autres. Ça veut dire quoi en vrai, cet empilement des choses, des pensées, des images, ces amas de couleurs, de symboles et de mots? Il faut alors imaginer ce qui a voulu être dit et aussi ce qui n'a pas pu l'être. Et je me demande finalement ce qui a été reçu, ce qui a été réellement lu, compris ou pas. Est-ce que tout est éphémère? Ou bien est-ce qu'un mot ou une image aura germé dans la tête d'un passant pour devenir autre chose? Aujourd'hui, tout est flou. Les frontières, la politique, le monde, la limite entre vie privée et publique. Demain, les projets qu'on chérit et qu'on n'ose pas. Est-ce que l'espace public l'est aussi? Malgré les tentatives quasi désespérées de marquer les contours de tout du bâtiment au marquage au sol en passant par les espaces verts. Et si c'est flou, comment partager ce que finalement on a du mal à définir autrement que pour un cabinet d'urbaniste? Comment définir ce dont beaucoup n'ont même pas conscience de traverser, d'envahir, d'occuper ou de survoler? Comment redéfinir l'espace et ce que nous avons désigné comme public? Est-ce que l'espace public est réellement à tous? Comment partager quelque chose qui ne nous appartient pas réellement? Comment réussir à se réinventer?
Merci beaucoup Marie, merci pour cette première, donc cette première chronique radiophonique. J'ai beaucoup aimé cette réflexion. C'est vrai que les choses se superposent, on écrit les murs, et puis finalement, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on en capte vraiment?
C'est le principe de construire la ville sur la ville, génération et siècle après siècle. Et c'est toujours intéressant de s'interroger de ce qui s'est passé avant que vous ne passiez, avant que vous ne posiez vos pas sur ceux des autres, avant que vous n'écriviez des mots. On est dans une rue où il y a plein de tags et on se demande pourquoi ce forgie, ça veut dire quoi, et qui va passer derrière et écrire encore quelque chose d'autre, ces fleurs qui sont là-bas sur le mur, et puis comment les gens partagent les espaces où on peut écrire, où on peut s'exprimer. Est-ce que finalement c'est public ou est-ce que c'est privé? Voilà, donc est-ce qu'on, des fois on dit pas des choses hyper personnelles dans un espace qu'on offre à voir à tous? Et c'était ça qui m'intéressait dans la thématique du Parking Day, à savoir comment redéfinir le partage de l'espace public.
Ben merci beaucoup pour cette réflexion qui pourra cheminer, je pense, dans l'esprit des auditeurs et cheminer. Et puis, je pense quand même que lors des prochaines balades en ville, ils le regarderont autrement. Peut-être s'attacheront aussi à voir ce que les autres ont voulu partager ou pas.
Écoutez, j'espère que ce sera aussi, c'est aussi une question de rythme. Quand on passe à vélo, on va vite. Quand on passe avec un pas élastique, on va vite aussi. Et puis, quand on prend le temps de flâner, on voit les petits détails que finalement, on ne regarde pas d'habitude. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, regarde cette voiture qui passe, qui nous regarde. Du coup, il passe plus doucement. Voilà, typiquement, d'habitude, il serait passé à fond la caisse. Et puis, voilà.
Et ben voilà, grâce à ce studio de radio sur le Macadam, les gens roulent moins vite dans la rue Molière. Première chose plutôt sympa. Merci encore Marie. Et puis peut-être qu'on te retrouvera, qui sait, d'autres fois à l'antenne au gré des émissions de ton livre. On ne sait pas. En tout cas, la porte t'est ouverte avec grand plaisir.
Merci.
Vous êtes toujours sur HDR, le mix des cultures. Et voilà, pour cette émission spéciale Parking Day, jusqu'à 17h. Il est 14h11. Et passons de la chronique de Marie à l'interview de Christophe de Échelle Inconnue. Autre association, autre collectif, et je suis sûre que les mots de Marie l'ont peut-être inspiré, parce que je sais que Échelle Inconnue réfléchit beaucoup à la ville, ce que l'on en fait, comment on traite ses habitants, comment on habite, comment on se déplace. Donc bonjour Christophe et bonjour
Lucie,
ouais, enchantée.
Bonjour.
Alors Échelle Inconnue était déjà venue dans un ton libre il y a de cela quelques mois, même peut-être un peu plus d'un an, émission qui avait été animée par Hélène, parce que je n'étais pas là. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Hélène, parce qu'elle aurait dû être avec nous cet après-midi. Et figurez-vous que grâce ou malgré la grève d'Air France, elle est coincée en Turquie où elle était partie en vacances et elle y est actuellement. Donc peut-être que si elle a un ordinateur, elle nous écoute. Coucou Hélène. Alors, tout d'abord, dites-nous, Échelle Inconnue, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Échelle Inconnue, on est une bande d'artistes, de géographes, d'architectes et on essaie de revoir un peu nos métiers. Tous. Au départ, c'est une bande d'architectes issus des grèves de l'école d'architecture de 95. D'accord. Qui ont monté à Échelle Inconnue. Mmh. Et en fait, ils voulaient se réinterroger sur la ville à partir des invisibles des villes. Donc avec notamment à l'époque, en 98, avec des sans-abri, essayer de comprendre leur représentation de l'espace avant tout. Et donc de travailler avec les personnes qui ne font pas partie de ce plan du cadastre, et donc du plan de l'impôt, que sont aussi ces sans-abri. Voilà. Donc essayer de comprendre la ville avec les habitants eux-mêmes, justement, et pas juste à partir de plans écrits ou tracés. Voilà.
D'accord. Donc ça, c'était le point de départ.
Exactement.
Oui. Et aujourd'hui, parce que c'était en 95, ça commence à faire un paquet de temps. Vous fêtez vos 20 ans l'année prochaine.
Alors, l'association, elle, a été créée juste après, en 98. Donc là, on fête nos 15 ans cette année.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Pour une association, c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Exactement. Et cette année, et depuis 3 ans d'ailleurs, on travaille avec les personnes qui habitent de manière légère ou mobile. Et donc, je vais essayer de faire un lien avec Parking Day. On travaille notamment avec des travelers qui, eux, chaque jour, essaient de se réapproprier des places de parking. Et donc, ils jouent avec le code de la route pour pouvoir habiter des places de parking. Et donc, ils ont le droit d'habiter 7 jours dans l'année une place de parking sans être dérangés. Voilà, mais il n'y a pas encore de texte de loi qui leur permet de vivre à l'année dans leur habitat au même emplacement. Voilà, donc pour essayer de raccorder un petit peu. Mais on ne travaille pas uniquement avec les travelers ou avec une culture en particulier, mais avec toutes les personnes qui habitent de manière légère ou mobile, c'est-à-dire par exemple les Roms qui sont contraints d'habiter dans des bidonvilles et d'être expulsés, donc d'habiter de manière mobile. Donc les Roms au Havre, par exemple. Les travelers, comme je disais. Les personnes qui habitent, par exemple, des ouvriers qui habitent en cabane de chantier, loin de chez eux, une bonne partie de l'année. Etc., etc.
Alors, votre travail s'apparente plutôt à du travail de terrain autour des enjeux de liens sociaux, ou plutôt un regard, je ne sais pas si c'est le bon terme, sociologique, sur un travail de recherche? Comment vous positionnez votre travail?
Alors, nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner de la connaissance sur ce sujet-là, en tout cas sur la ville telle qu'elle est à partir de ses marges. Si on n'a pas cette connaissance-là, on ne peut pas non plus avancer sur la ville telle qu'elle est de manière sédentaire aussi. Puisque tout est interconnecté, donc il est important de donner de la connaissance. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif principal. Et après, c'est essayer de faire en sorte que toutes ces personnes qui n'ont pas du tout les mêmes cultures, c'est-à-dire les Roms, les voyageurs, les travelers, les ouvriers, puissent entrevoir... Qu'ils ont en fait le même problème urbanistique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas habiter à l'année, peu importe, même s'ils habitent en caravane, en camion, ou en bidonville, ou en yourte aussi. Voilà, donc en fait, c'est essayer de montrer qu'en fait, ils ont chacun des astuces pour habiter dans la ville, dans les interstices, dans les enclaves, et essayer de voir comment on peut, nous, à partir de films, d'expositions, leur montrer que telle culture utilise telle méthode pour investir la ville, et puis ainsi de suite, remontrer ces films-là à d'autres, etc.
Alors justement, est-ce que dans ce travail, parce que la ville, il y a un vocabulaire autour de la ville qui peut être assez particulier, et puis quand on lit un peu, notamment les travaux de la DATAR il y a quelques temps, et puis maintenant, alors il y a le commissariat général, je ne sais plus trop quoi, enfin bon, peu importe les institutions officielles qui parlent de la ville, on parle de plus en plus de de la métropolisation, après des espaces interstitiels, parce que c'est pour ça que j'ai pensé, vous avez parlé des interstices. Est-ce que aussi vous vous intéressez à ce vocabulaire et comment il doit être un peu peut-être cassé pour utiliser un vocabulaire qui remette l'humain au cœur de la question, l'habitant, qu'il soit un habitant en habitat léger, etc. Comment quelle est votre approche par rapport à ce discours institutionnel sur la ville ?
Je dirais que on interroge la métropole à partir de la mobilité. En fait, aujourd'hui, la mobilité, c'est quelque chose qui est à la fois vanté d'un côté, avec les téléphones portables, les lignes TGV qui sont mises en place. Pas mal.
Mais quand même, la mise en scène de l'interview, c'est la classe. Non, mais c'était...
C'est drôle. Voilà, on voit qu'il y a une mobilité vantée, donc avec les téléphones portables, les TGV, etc. Donc pour essayer de connecter les villes entre elles, donc les métropoles entre elles. Mais il y a aussi une mobilité qui, elle, nous on essaie de la montrer, de la rendre visible, qui est une mobilité qui est plutôt contrainte, et notamment aussi par les lois liées à l'urbanisme. Voilà, donc nous on essaie plutôt de faire émerger de la connaissance de ce côté-là, et l'État fait émerger de la connaissance de l'autre côté, donc il y a un rapport de force qui doit se mener.
Voilà. Alors Lucie, donc vous êtes membre de l'association, du collectif Échelle Inconnue.
Oui, c'est ça, tout récemment en fait.
D'accord, tout récemment. Justement, oui. Pourquoi vous venez rejoindre Échelle Inconnue? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes par ailleurs géographe, urbaniste, architecte?
Pas du tout, enfin, moi je m'intéressais... j'ai une passion, on va dire, pour le monde de la culture, de l'art, etc. Et qui était potentiellement très éloignée de ce que je faisais Échelle Inconnue, parce que moi, c'était plutôt sur le spectacle vivant. Mais en fait, j'ai découvert avec Échelle Inconnue une nouvelle manière de penser la culture, de réfléchir, et pas seulement dans un système plutôt conventionnel, etc. Donc c'est ça qui m'a vraiment plus intéressée. Et du coup, moi, je suis arrivée le 1er septembre. Donc vraiment,
bienvenue à Échelle Inconnue de la part de la radio HDR.
Merci. Et du coup, je vais surtout essayer de diffuser les documents, les publications du groupe. Parce que aussi par rapport à cette connaissance dont Christophe parlait tout à l'heure, on essaye de la rendre visible par divers moyens. Donc il y a les films dont il a parlé, mais il y a aussi la rédaction de publications comme... le tout dernier journal d'Échelle Inconnue.
Et oui, vous avez fêté sa parution il y a deux, trois jours, le 18 septembre, donc dans vos locaux qui sont 18 rue Sainte-Croix des Pelletiers à Rouen. Donc, alors justement, cette dernière publication, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, Macnochina. Comment on prononce quand on est habitué à le dire trois fois par mois? Macnochina. China. Bon, je ne vais pas essayer de le redire, je vais avoir du mal. Et donc, oui, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce journal? Quand est-ce qu'il est édité? C'est un tous les...
C'est plutôt un par an, mais enfin, c'est rien de fixe. C'est plutôt...
quand la matière est là.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est vraiment autour de ces travaux sur l'habitat léger et mobile. Donc c'est le deuxième exemplaire Macnochina. Et ce qui est tout nouveau, enfin ce qui est plus nouveau et plus essentiel dans le journal là, c'est sa dimension internationale, parce que ces réflexions-là sont ouvertes avec Échelle Inconnue ces derniers mois, en Moldavie, en Russie, mais on revient aussi sur les travaux qui ont été faits en Algérie là il y a plusieurs années. Et donc c'est à la fois dans ce document des retracer des rencontres qui peuvent être faites avec des habitants, mais c'est aussi essayer de construire du texte théorique ou encore avec le petit système de QR code là, que je vois que vous êtes en train de voir, de montrer des vidéos, essayer de, dans un document de, d'en avoir plusieurs en fin de compte. Et quoi aussi? Ah oui, et on essaye aussi de donner des outils pour, je vais un peu me répéter, pour outiller donc, cette ville mobile. Donc il y a tout un passage, donc
des fiches, par exemple, pour créer des toilettes sèches mobiles pour les habitants qui se feraient expulser d'un bidonville, par exemple.
Donc ça qui avait été réalisé au Havre l'année dernière, sur le bidonville du Havre, avant qu'il soit expulsé. Et d'ailleurs, c'est totalement dans l'actualité maintenant, parce qu'ils avaient, du coup, ils s'étaient souvent déplacés, dont à Cocriauville, donc un quartier du Havre, et ils vont être sûrement très bientôt réexpulsés.
Alors justement, pour avoir cette ouverture internationale, parce que c'est vrai que toujours sur les réseaux sociaux, j'ai vu souvent passer les infos ou les articles qui parlent notamment de la Russie, Moscou, etc. Comment vous fonctionnez? Vous avez des membres de l'association qui partent en voyage au titre de l'association. Comment ça fonctionne?
Oui, exactement. En fait, il y a une équipe mobile qui part à Moscou, en Moldavie, en Algérie. Il y a une autre équipe qui est plus fixe et qui est en région Haute-Normandie. Du coup on communique tout le temps, on fait des réunions par Skype voilà.
D'accord. Et quand ils partent, c'est sur des longs séjours, des missions pour vraiment faire ce travail à la fois de rencontres, d'échanges, mais aussi apporter ce que vous disiez, apporter de la connaissance quoi.
Là en ce moment c'est un mois et demi là-bas et un mois à Rouen. Ils font des échanges comme ça.
Ok. Et Christophe, est-ce que vous êtes parti vous dernièrement sur le terrain justement?
Moi je suis allé en Allemagne en janvier.
D'accord.
Voilà.
Alors justement, parlez-nous peut-être de cette expérience-là. Comment est-ce que vous constatez des différences justement de traitement en termes de politique publique sur l'accompagnement, je ne sais pas si c'est le bon terme, des habitants qui sont dans un habitat léger ou un habitat mobile?
Alors, ce qu'on remarque, nous, c'est qu'on ne pose pas les mêmes questions forcément en Russie, par exemple. En Russie, on se pose des questions autour de l'économie informelle, de la manière dont sont utiliser l'économie avec les kiosques, etc., qui eux-mêmes sont éphémères en général. Et donc on étudie ça sur place là-bas. On n'étudie pas forcément les mêmes choses.
Et puis j'aimerais que vous nous parliez du doctorat sauvage.
Ah, bah voilà. Oui.
Qu'est-ce donc que ce doctorat sauvage?
Alors le doctorat sauvage,
c'est quasiment un oxymore en tant que tel, presque.
Doctorat sauvage en architecture. Déjà, il est à destination de tous. Enfin, il est pas uniquement dédié à des personnes qui ont déjà suivi un cursus universitaire, mais ça peut être aussi bien un plombier, un chômeur ou
animatrice radio, pourquoi pas.
Une animatrice radio ou un chercheur. N'importe qui peut venir à échelle inconnue au doctorat sauvage en architecture. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important pour nous. Ce doctorat sauvage, en fait, c'est vraiment une réflexion sur la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on invite à la fois des chercheurs sur ces questions-là, des journalistes, mais pas seulement, aussi des porteurs de projets qui sont en France ou à l'étranger. Par exemple, la prochaine personne qui va venir s'appelle Aza Chaouch-Bouraoui.
Donc jeudi prochain.
C'est exactement ça, ouais.
25 septembre, 18h30.
Oui. jeudi prochain, donc elle est doctorante en droit public et en sciences politiques, mais elle est aussi membre du Hackerspace de Tunis, et elle va pouvoir aussi donner son point de vue sur son expérience en tant que membre du Hackerspace de Tunis sur la cyberguerre. Et étant donné qu'elle est tunisienne, elle a aussi un regard assez particulier qu'elle pourra nous délivrer, nous, petits Rouennais. Voilà.
Donc la conférence s'appelle « La guerre au XXIe siècle, guerre connectée ».
Exactement.
Point d'interrogation. Donc ça promet d'être une rencontre intéressante. Alors justement, vous parlez de la mobilité en lien avec l'habitat, vous parliez des sans domicile fixe, etc. Mais il y a aussi cette approche, la ville numérique. Comment le numérique recompose la ville, les liens, le levier du numérique, parce qu'on parle de la Tunisie, donc forcément on pense aux printemps arabes, etc.
Pour nous, On avait fait en fait en 2009 une étude des caméras de surveillance. On avait fait une carte des caméras de surveillance de la ville de Rouen en prenant toutes celles qui avaient un angle sur l'espace public. Donc on en avait relevé 200 à peu près. Donc on s'était dit en fait qu'il y avait...
Est-ce qu'il y en a une qui nous regarde actuellement là? Il y en a
alors,
une dans le coin?
Pas ici. Ah. On l'avait pas. On n'a pas relevé dans le coin. Dans cette rue là en fait. Mais voilà, donc on s'est dit qu'on ne pouvait même pas intervenir dans des interstices, notamment en centre-ville de Rouen, sur cette question-là. Et donc ça nous a permis de dire qu'il y avait un vrai calque sur la ville qui était numérique, et donc on vivait dedans. Et donc comment on pouvait changer les choses de dedans, en fait, sur cette question-là, puisqu'on n'a pas le choix, on y est, quoi. Depuis, en 2012, il y a un hackerspace qui a rejoint nos locaux, oui. Qui est le hackerspace Jeanne d'Arc, qui, lui aussi, réfléchit sur cette question du numérique, de l'électronique, de la sécurité informatique, ou ce genre de choses. Donc, ils se réunissent tous les lundis à 18h30 dans nos locaux. Et puis nous, par ailleurs, le prochain journal qui sortira, on va dire, dans quelques mois ou dans un an, se reportera vraiment sur cette question du numérique.
D'accord.
Et de la ville.
D'accord, voilà. Bon, sujet fort intéressant dans l'actualité qui pose énormément de questions. Donc le prochain rendez-vous pour Échelle de l'inconnu, donc on l'a dit, hein, la conférence le 25 septembre 2014, à 18h30, donc ouvert à tous.
C'est ça.
Voilà, dans vos locaux, 18 rue Sainte-Croix des Pelletiers. Donc vous disiez que vous aviez le Hackerspace qui vous a rejoint. Avec quel collectif, quelles associations rouennaises avez-vous l'habitude de travailler? Qui d'autre que Échelle Inconnue se pose ces questions sur la ville, sa recomposition, son fonctionnement, son traitement de l'habitant?
Alors on travaille aussi avec l'Université de Rouen, qui elle mène actuellement une recherche sur la foire Saint-Romain. Donc c'est forcément en lien avec nos préoccupations. On bosse beaucoup avec la librairie Police. On fait des événements avec eux de temps en temps. Dernièrement, on a aussi projeté un film à l'Omnia dans le cadre du festival à l'Est du Nouveau, puisqu'il avait une thématique autour des Roms notamment. On avait projeté un film qui s'appelle Ville détruite par des hommes en uniforme, donc un projet qui avait lieu à Villeurbanne. Enfin, j'en oublie sans doute. Voilà.
Est-ce que vous, pour le doctorat sauvage ou pour vos conférences, est-ce que vous avez un public un peu de fidèles, de spécialistes ou d'architectes ou de futurs architectes ou des gens déjà impliqués professionnellement sur ces questions? Vous avez le sentiment que ces thématiques-là arrivent à intéresser un public divers et que ces questions-là sur la ville aujourd'hui essaiment et que c'est plus qu'une question justement d'institutions publiques ou de spécialistes?
Alors déjà, tout à l'heure, j'ai vu Jérôme, qui est juste à côté, qui vient souvent au doctorat sauvage. Il y a quelques personnes qui viennent vraiment de manière assidue. Après, ça dépend vraiment des thématiques et des cycles. Par exemple, pour le cycle numérique, c'est plus les membres du Hackerspace et des gens qui s'intéressent vraiment à cette question-là. Pour le cycle de la ville et la guerre, ça va être d'autres personnes. Ça dépend plus du thème que d'une habitude. Voilà.
Est-ce que vous avez aussi pour objectif de pouvoir échanger avec les pouvoirs publics sur les projets? Je pense à Rouen avec le projet d'éco-quartier sur le secteur l'éco-quartier Flaubert, je crois. Est-ce que justement vos réflexions, vous avez l'occasion de les mettre autour de la table lorsque la ville veut inventer, créer un nouveau quartier, donc qui générera sans doute des problématiques de comment les gens y circulent, peuvent y vivre ou pas? Est-ce que le quartier est inclusif ou pas?
Alors, c'est pas tant sur ce quartier-là que nous, on a réfléchi. Mais c'est juste à côté, ce sont les quais rive gauche. qui était habité par énormément de monde en fait, qui ont été complètement oblitérés. Il y avait à la fois des travelers qui habitaient à côté du 106, des ouvriers qui refaisaient les clochetons de la cathédrale qui habitaient sur place. Il y avait aussi énormément de personnes âgées en camping-car face à la cathédrale. Enfin, toutes ces personnes-là en fait n'ont pas été pensées dans le projet. Les forains ont été un peu impliqués, mais hormis les forains, les autres n'ont pas du tout été concertés, ou en tout cas il n'y avait pas eu de discussion avec eux. Donc nous, on a fait un film là-dessus qu'on a mis en ligne. Voilà, on n'a pas de discussion directe avec les pouvoirs publics. On essaie de donner la connaissance déjà aux habitants sur ces questions-là.
D'accord. Ben merci beaucoup à vous, Christophe et Lucie, de nous avoir donné un aperçu des travaux d'Échelle Inconnue. Donc, je rappelle votre site internet échelleinconnue.net, tout simplement. Un prochain rendez-vous jeudi prochain. Bon, il y en a quasiment tous les jeudis à 18h30. Alors, bon, là, je suis un peu embêtée parce que le jeudi à 19h, c'est ton livre sur HDR. Donc, on peut passer des deals. À 18h30 jusqu'à 19h, vous faites votre truc et vous branchez HDR ensuite. Et puis voilà. Et après, vous reprenez à 20h.
Bon, on essaiera.
On va s'arranger.
Merci beaucoup à vous deux. Et puis, bonne continuation. Et puis, donc, on peut passer à Échelle Inconnue pour découvrir cette dernière parution de
Macnof China.
Voilà. Merci à vous et bon après-midi.
Merci. Merci.